soit numérique et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre 2-3 petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va, Fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui, chaque semaine, aborde en moins de 10 minutes un sujet lié aux nouvelles technologies numériques et informatiques qu'on ne comprend pas toujours, mais qui font notre quotidien, qu'on le veuille ou non. Alors, ces deux dernières semaines, nous avons parlé de ce qu'est un logiciel et de la distinction entre logiciel libre et propriétaire. Aujourd'hui, nous allons voir que beaucoup des logiciels que nous utilisons sont en réalité très loin de nous. En effet, ils ne sont généralement pas installés sur nos machines, mais dans le cloud, et nous y accédons par Internet. On peut ainsi parler de logiciel en tant que service ou de logiciel à la demande. Mais alors, de quoi parle-t-on? Comme beaucoup de termes en informatique, le logiciel en tant que service est un concept traduit de l'anglais « software as a service », aussi connu sous son acronyme SaaS. Alors, vous n'en avez probablement jamais entendu parler, mais ce qui est sûr, c'est que vous vous en servez très certainement tous les jours. Vous consultez une carte interactive en ligne, vous communiquez avec un gestionnaire de messagerie ou webmail, vous écoutez vos listes musicales par un abonnement en ligne, vous utilisez du logiciel en tant que service. Pour faire simple, plutôt que d'avoir un logiciel installé sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, ce logiciel se trouve dans les ordinateurs d'une entreprise qui vous fournit un accès en tant qu'utilisateur par le biais d'Internet. Si l'on repense à la distinction logiciel et matériel abordée il y a 2 semaines, cela signifie simplement que vous possédez le matériel, mais pas le logiciel. Ce dernier est hébergé sur un serveur centralisé, auquel l'utilisateur accède librement par une souscription ou un abonnement payant. Pour en discuter, nous nous contenterons de cette définition assez large, même si des subtilités techniques peuvent restreindre le concept de SaaS. Pour mieux comprendre le logiciel en tant que service, prenons l'exemple de la navigation géographique par carte interactive. À partir des années 90, plusieurs entreprises se sont lancées dans la commercialisation de machines de navigation GPS. Vous achetiez un boîtier vendu par le Hollandais TomTom ou l'Étatsunien Garmin, et cette machine contenait le logiciel qui vous permettait de vous guider sur la route. Vous pouviez faire des mises à jour pour obtenir de nouvelles cartes, bref, vous possédiez le matériel et le logiciel. Mais aujourd'hui, comment fait-on ? Eh bien, il est assez rare que l'on télécharge des cartes ou un logiciel de gestion de cartes sur une machine, et encore plus rare que l'on achète un appareil contenant un logiciel qui ne fait que cela. L'entreprise états-unienne Google a contribué à généraliser l'utilisation en ligne des logiciels de navigation et des cartes qui sont désormais utilisées comme un service. Ce modèle d'exploitation du logiciel en tant que service se retrouve également dans les réseaux sociaux numériques, comme Facebook ou LinkedIn, puisque l'utilisateur ne possède pas leur logiciel. De même, à l'exception des personnes qui hébergent leur propre service de courriel, les fournisseurs de services d'email en ligne comme Gmail, Hotmail ou ProtonMail offrent aussi du logiciel en tant que service. Ils gèrent la réception et l'envoi de nos courriels, les tris et les stocks. Mais alors, pourquoi ce succès des logiciels en tant que service ? Premièrement, il faut comprendre que cela tient largement à la généralisation de l'accès à Internet à haut débit, qui est le pilier de ce modèle. Mais cela offre également de nombreux avantages à l'utilisateur. Flexibilité d'utilisation. Pas d'installation, donc la possibilité de changer de logiciel facilement. Simplicité de maintenance. La mise à jour est gérée par le fournisseur de services. Et enfin, économie de ressources. Plus besoin de stocker les données dans sa machine ou d'avoir un ordinateur puissant pour faire tourner le logiciel. Ces avantages en font une solution très attirante pour vous et moi, mais aussi pour des entreprises qui souhaitent externaliser facilement la maintenance et limiter leurs coûts informatiques. Mais réfléchissons un instant. Si le logiciel en tant que service s'est généralisé aussi vite, c'est aussi parce qu'il offre de nombreux avantages aux fournisseurs qui détiennent les logiciels. Tout d'abord, si l'utilisateur ne possède pas le logiciel, les possibilités de piratage sont beaucoup plus faibles. Les licences propriétaires des fournisseurs sont donc mieux protégées, ainsi que les données fournies que l'utilisateur ne possède pas. Musique, films, cartes, photos, etc. De plus, la mise à jour et la maintenance étant centralisées, l'utilisateur n'a pas son mot à dire sur l'évolution du logiciel. Ainsi, l'entreprise n'a pas à gérer l'existence de multiples versions chez ses clients. Enfin, mais pas bénin, ce mode d'exploitation offre au fournisseur une excellente connaissance de ses clients. Et c'est là que se trouve le principal enjeu. Comme chaque action de l'utilisateur passe par une connexion aux ordinateurs du fournisseur, le client est identifié et suivi à la trace. Heure et durée de connexion, localisation, recherche, choix, préférences, communication échangée, le moindre clic en temps réel est une donnée supplémentaire qui permet d'affiner la connaissance de l'utilisateur. Dans une économie numérique portée par le marché des données, cela peut représenter une véritable mine d'or. À tel point qu'un grand nombre de ces logiciels sont en accès gratuit à condition de s'identifier. Encore une fois, le problème réside dans l'opacité de l'utilisation de nos données. À quoi servent-elles? À qui sont-elles communiquées? Combien de temps sont-elles gardées? Autant de mystères sur lesquels nous aurons l'occasion de nous inquiéter lors d'une autre chronique. Mais au-delà de la surveillance de nos activités, il y a également d'autres problèmes pour l'utilisateur. Évidemment, nous devenons dépendants d'une bonne connexion Internet pour faire fonctionner nos logiciels, mais je pense que tout le monde en a déjà bien conscience. Au-delà de ça, avec le logiciel en tant que service, nous sommes dépendants des changements du logiciel. Si Facebook décide de changer pour faire apparaître en priorité les messages de certaines personnes dans notre fil d'actualité, il nous est impossible de refuser. De plus, comme nous ne possédons plus les données que nous consommons, nous en perdons le contrôle. Vous ne voyez pas de quoi je parle, peut-être ? Alors, c'est l'histoire d'un Canadien utilisateur de iTunes Store, un service qui permet d'acheter l'accès à des films en ligne. Eh bien, ce client d'Apple a fait l'expérience de cette perte de contrôle. En septembre dernier, trois films qu'il avait achetés ont tout simplement disparu de la librairie en ligne. Réponse de Apple, pas de film, pas de remboursement, mais merci d'avoir choisi Apple. Enfin, on parlait à l'instant des données collectées sur notre dos et de l'externalisation de la maintenance informatique. Eh bien, cela signifie également que le stockage de nos données personnelles est accessible en ligne et sa sécurisation dépend d'une entreprise. Une autre histoire ? Allez, en décembre 2016, les utilisateurs de comptes Yahoo ont été ravis d'apprendre que les données de 3 milliards d'entre eux avaient été volées. Quand ça ? En août 2013. L'entreprise a donc attendu plus de 3 ans avant d'avouer publiquement ses défaillances. Eh bien, et nous dans tout ça ? Nous bénéficions tous des avantages des logiciels en tant que service dans notre quotidien. Mais il ne faut pas oublier la perte de contrôle que cela implique. Puisque nous avons parlé du logiciel libre la semaine dernière, ce dernier offre une solution à certains des problèmes que nous venons d'évoquer. Si le logiciel en tant que service est libre, les données ne sont pas collectées en vue d'une spéculation marchande et encore moins de manière opaque. De plus, comme le logiciel peut être reproduit, il n'est pas nécessairement centralisé. Dans ce cas, le risque de perte de données est divisé entre un grand nombre d'hébergeurs. Ainsi, une alternative libre et non marchande à Google Maps est le projet OpenStreetMap, fondé en 2004 par un ingénieur britannique au University College de Londres. De même, le réseau social décentralisé Diaspora est une excellente alternative à Facebook. Et plus généralement, l'association française Framasoft offre toute une gamme de logiciels en tant que service qui préservent nos données personnelles par des licences libres et de l'hébergement décentralisé. Après, vous pouvez aussi acheter vos films chez Apple, mais n'oubliez pas de vite les regarder avant qu'ils ne disparaissent.